pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI.
Igor Strauss.
Bonjour et bienvenue dans C'est pas du vent. Ce devrait être une première. À moins d'une énorme surprise, mardi prochain, les députés français devraient adopter définitivement la proposition de loi sur le devoir de vigilance des multinationales, plus connue sous le nom de RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Car jusqu'à présent, lorsque les activités d'une multinationale violaient les droits humains à travers une de ses filiales, la responsabilité de la maison mère était rarement établie et reconnue. On pense évidemment au scandale des déchets toxiques en Côte d'Ivoire en 2006 ou plus récemment à l'effondrement du Rana Plaza au Bangladesh en 2013 qui avait fait plus d'un millier de morts. Il fallait donc une loi pour responsabiliser les multinationales et mettre un terme à leur impunité, une loi pour le respect des droits humains et de l'environnement, bref une loi pour la construction d'une société plus juste. Mais que ce fut long et laborieux. Par trois fois, le Sénat a rejeté cette loi au nom du respect de la compétitivité des entreprises. C'est donc un texte raboté, allégé, qui devrait être adopté dans deux jours. Alors, que dit cette loi? Protégera-t-elle les citoyens? Sera-t-elle réellement appliquée, sachant que le Conseil constitutionnel pourrait avoir son mot à dire? C'est ce que nous verrons dans les prochains jours. Espérons seulement que, pour une fois, le respect des droits humains prime sur la loi du marché.
C'est pas du vent. Sur RFI.
Et pour parler de ce vaste sujet, nous sommes en compagnie de trois membres du Forum citoyen pour la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Sabine Gagné, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de plaidoyer entreprises et droits humains chez Amnesty International France. Marie-Laure Guislain, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable du contentieux dans le pôle globalisation et droits humains de l'ONG Sherpa. Et Carole Péchaud, bonjour également.
Bonjour.
Vous êtes chargée de plaidoyer sur les questions de régulation des entreprises multinationales pour l'ONG CCFD Terre Solidaire. En tout cas, merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Alors, je le disais dans le sommaire, le 30 novembre dernier, les députés français ont adopté la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. Le vote final à l'Assemblée nationale aura lieu mardi 21 février, dans deux jours donc. A priori, Sabine Gagné, le texte sera adopté. Pas de surprise à prévoir.
A priori, pas de surprise à prévoir, le texte sera adopté en l'état, c'est-à-dire de la version qui a été adoptée le 29 novembre à l'Assemblée nationale. Depuis le 1er février, le Sénat l'avait rejeté, mais en réalité ce rejet n'a pas de conséquences en termes législatifs. Et donc le texte sera adopté mardi 21 février aux alentours de 16h.
La droite et le MEDEF sont opposés à ce texte au nom du respect de la compétitivité des entreprises. Ils disent vouloir éviter des contraintes supplémentaires aux multinationales françaises. Qu'est-ce que vous pensez de ces arguments, Carole Péchaud?
Alors d'abord, ce n'est pas que les multinationales françaises qui vont être visées par le texte. Donc là, il faut être très clair. On ne va pas rentrer dans les détails, mais le champ d'application touche à la fois des entreprises françaises.
En fait, c'est suivant le nombre de salariés.
Mais également des entreprises qui ne sont pas françaises, mais qui peuvent avoir une implantation sur le territoire hexagonal. Et sinon, ce sont des arguments qu'on entend depuis très longtemps, qui ont un peu ponctué toutes les luttes du Forum citoyen pour la RSE sur le reporting extra-financier et maintenant sur le devoir de vigilance. Donc on sait très bien aujourd'hui que la compétitivité est prime, malheureusement, parfois dans les discours et les actes sur le respect des droits humains. Ce qu'on espère, c'est que justement le rôle du politique va remettre les choses dans le bon ordre.
Justement, Marie-Laure Guislain, comment est-ce que vous interprétez le rejet de la loi par le Sénat, et ce à trois reprises, il faut le rappeler?
Ce rejet à trois reprises montre le lobby économique très fort derrière cette proposition de loi. Et comme le rappelait Carole, la compétitivité ne doit pas aujourd'hui être basée sur la violation des droits fondamentaux. On aimerait quand même rappeler que le débat n'est pas si bilatéral. Il y a des entreprises qui ont compris que la rentabilité n'était pas hostile à la défense de l'intérêt général. Et que, au contraire, les consommateurs aujourd'hui veulent des entreprises responsables. Ces entreprises prennent prennent toutes des engagements éthiques et donc elles ont intérêt aujourd'hui à réellement les respecter. Et ce qu'on aimerait dire donc au Sénat, c'est que la France est loin d'être la seule à avoir ce type d'initiative, puisque d'autres pays européens comme la Suisse ou le Royaume-Uni ont ce type d'initiative, et que de toute façon c'est un pas irrémédiable vers lequel on est en train d'aller. Et enfin, nous avons publié mardi 14 février à Sherpa une étude qui montre que même en droit français, le principe de vigilance est un point qui existe, est un principe qui existe dans la loi française.
Alors justement, Carole Péchaud, que dit la loi très précisément ? Expliquez-nous les termes de la loi.
Alors, c'est une loi qui, comme l'a dit Sabine, va inscrire dans le droit ce qu'on appelle dur, donc assorti de contraintes et de sanctions quand il y a un non-respect de les dispositifs de la loi. C'est une loi qui va inscrire donc dans le droit dur des principes qui existent déjà de façon, comme on dit, volontaire, donc le droit entre guillemets mou, à savoir le principe de prudence, de diligence raisonnable, des principes qui sont reconnus aujourd'hui par les principes de l'ONU, les principes de l'OCDE, donc qui s'adressent aux entreprises qu'elles ont elles-mêmes acceptées, on va dire, et elles disent aujourd'hui qu'elles les respectent et que c'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'aller au-delà, puisqu'il y a déjà ce cadre. Nous, on estime, et on pourrait y revenir, que le volontaire, et quand il n'y a pas de sanction, en fait, il y a une perte d'efficacité, et on pourra le démontrer par les différents cas qui ont été travaillés, notamment par Sherpa. Donc, pour nous, cette loi, elle est importante parce que, un, en termes de bataille des idées, on sort du droit uniquement mou pour aller vers du droit dur. Donc, on fait rentrer des notions qui existent de façon volontaire dans un corpus législatif contraignant. Donc ça, c'est très important. Ça touche effectivement que 150 multinationales aujourd'hui, parce que c'est que les grands groupes, mais c'est une loi de vigilance, donc une loi de précaution, en fait, qui est vraiment dans le volet préventif, à savoir comment une entreprise multinationale, implantée dans beaucoup de pays très différents, va en amont, en tant que société mère donneuse d'ordre, parce qu'elle a une responsabilité en tant que donneuse d'ordre, va identifier les éventuels risques et impacts que l'activité de ses filiales, sous-traitants et de toute sa chaîne d'approvisionnement peuvent provoquer dans les pays où elle est implantée.
Marie-Laure Guislain, il y a cependant un mais, puisque vous attendiez une loi un peu plus ambitieuse, et ce sur trois aspects, le champ d'application, la charge de la preuve qui pèse toujours sur la victime et non sur la maison mère, et puis enfin le régime de responsabilité de la société qui est limité. Expliquez-nous ces trois notions qui allègent la loi finalement.
Alors, effectivement, cette loi, même si c'est un grand pas, n'est pas aussi ambitieuse que l'auraient souhaité les ONG et Sherpa depuis 2001. Mais donc, le seuil d'entreprise, du coup, ne concerne que 150 à 200 entreprises françaises, les plus grandes entreprises, qui sont, pardon, pas forcément françaises, mais implantées en France.
Et en fait, ça a été un tri par la taille et non par le choix de l'activité économique. On aurait pu penser que l'industrie extractive, par exemple, soit plus concernée.
C'est ce qui avait été demandé, par exemple, le choix par le chiffre d'affaires, notamment, qui avait été choisi dans d'autres textes, notamment la directive reporting extra-financier. On avait aussi espéré un renversement de la charge de la preuve, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les victimes avec qui nous travaillons tous les jours ont énormément de mal à prouver déjà que leur dommage environnemental, par exemple, provient de l'entreprise qui est juste à côté d'elle. Imaginez comment, du coup, cette victime va pouvoir réussir à montrer qu'en fait, c'est la maison mère à l'autre bout du monde qui a réellement créé ce dommage. Donc, nous, c'est ce que nous essayons de faire tous les jours, d'essayer d'aider ces victimes pour montrer que ce sont les maisons mères qui sont responsables in fine, mais c'est extrêmement compliqué. Et dans le premier projet de loi, c'est effectivement ce qui avait été réussi à être inscrit, c'était ce renversement de la charge de la preuve. Et le troisième point dont vous me parliez...
Donc la responsabilité de la société qui est limitée, puisque c'est une responsabilité de droit commun, comme on le dit.
Alors, la responsabilité de droit commun implique que, encore une fois, la victime doit prouver le dommage, la faute de l'entreprise et le lien de causalité entre cette faute et le dommage.
Alors que tout ça est très compliqué et demande des moyens que souvent les victimes n'ont pas.
C'est la raison pour laquelle d'autres rapports, comme le rapport Catala ou le Page, avaient proposé une responsabilité de droit d'autrui, que certains professeurs de droit proposaient d'autres types de responsabilités. Mais effectivement, ça c'est quelque chose qui a été une ligne rouge pour le gouvernement. Il faut quand même juste rappeler l'impact de cette loi pour revenir un petit peu à ce que cette loi va changer malgré ses défauts. Aujourd'hui, une multinationale n'est pas un sujet de droit international. Et donc, il faut rappeler que un groupe récupère tous les bénéfices économiques de ses filiales et sous-traitants à l'étranger, mais n'est pas juridiquement responsable de ses sous-traitants et filiales. Donc, la réalité économique ne colle pas à la réalité juridique. Et c'est ce que cette loi, quand même, va réellement pouvoir changer, donner un fondement juridique à toutes ces victimes pour demander aux maisons mères et donneurs d'ordre de respecter les droits humains sur toute leur chaîne de production.
Sabine Gagné.
Et puis concrètement, il faut peut-être expliquer que ce que aura à faire véritablement dans les faits une entreprise. En fait, elle va devoir remplir ce qu'on appelle un plan de vigilance. Et donc c'est ça le cœur de l'obligation de cette loi, c'est cette obligation pour l'entreprise multinationale de faire un plan de vigilance dans lequel elle doit inscrire la façon dont elle identifie et prévient les risques dans ce qu'on appelle sa chaîne de valeur, donc y compris chez ses sous-traitants et ses fournisseurs. Donc c'est en amont, avant de mettre en œuvre ses activités, qu'elle doit au maximum prévenir. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que c'est bien une loi de prévention. Et effectivement, dans le cas où ce plan n'est pas mis en œuvre correctement, ou s'il y a un dommage et qu'il y a des victimes à l'autre bout de la chaîne, eh bien, la société mère pourra être mise en cause pour le défaut de son plan de vigilance.
Carole Péchaud, vous voulez rajouter un petit mot ?
Juste un petit mot, mais qui va dans le même sens, évidemment, de dire que, et on l'évoquera peut-être plus tard, les cas qu'on a étudiés de violation des droits humains par des multinationales ne sont pas des accidents. C'est bien un mode opératoire systémique qu'on dénonce. Et on sait que nombre de violations ou de dégâts qui ont été produits par ces multinationales viennent d'un manque de prise de mesures préventives par le donneur d'ordre. Donc cette loi vise vraiment à s'attaquer à ce manque de prévention et d'anticipation des entreprises.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
Direction le Sénégal à présent. Nous sommes en ligne avec Abouar Metsek, le maire de Barni, une petite ville à 30 km de Dakar. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Barani a été au centre d'un de nos reportages il y a 2 semaines, puisque votre ville est aujourd'hui confrontée à 3 problèmes, 3 phénomènes, l'érosion côtière, la construction d'une nouvelle usine à charbon sur le terrain qui devait permettre de reloger les victimes de l'érosion, justement, et la Sokosim. Alors, la Sokosim, c'est la société commerciale du ciment, la plus importante cimenterie d'Afrique de l'Ouest, filiale du groupe français V4. D'après son site internet, je cite, Sokosim Industrie fait du respect de l'environnement un credo de sa politique de développement durable. Cette volonté s'est traduite par la certification ISO 14001 de la cimenterie. La prise en compte des aspects sociaux fait de la cimenterie une usine aujourd'hui reconnue comme acteur majeur en matière de responsabilité sociétale des entreprises au Sénégal. Fermez les guillemets. Partagez-vous cette analyse, monsieur le maire ?
Mais vous savez, nous, sur le terrain, c'est pas ce que l'on voit et c'est pas ce que l'on vit avec cette industrie qui est présente sur notre périmètre communal depuis 1948. Cette certification prescrit un certain nombre d'exigences environnementales et de management environnemental. Mais nous ne le voyons pas. Vous allez sur le site, par exemple, de cette société-là pour montrer, démontrer effectivement ce management environnemental. Il nous explique comment les carrières ont été réhabilitées ici à Barni, ce qui n'est pas forcément le cas. Vous allez sur le site où il y a 480 hectares donc, d'exploitation de calcaire, vous voyez un site ouvert qui n'est même pas sécurisé. Les enfants peuvent s'y promener, s'y perdre éventuellement aussi. Et je ne vous parle pas non plus de l'impact de l'extraction par les explosifs sur les constructions. Nous avons aujourd'hui tout autour de ces carrières-là des maisons qui sont fissurées. Et nous savons qu'il y a un impact direct, donc lié effectivement à l'activité d'extraction par des techniques qui ne sont pas du tout modernes, je veux dire par là, par des explosifs. Donc cette certification en tout cas, cette exigence environnementale que devrait entraîner, disons, cette certification, nous ne la vivons pas sur le terrain.
Qu'est-ce que vous attendez de la Sokosim en termes de RSE très concrètement, monsieur le maire ?
Nous avons des exigences très fortes dans 4 domaines au moins. Déjà sur le plan fiscal. Vous savez que l'industrie de la Sokosim est située à Barni, mais la commune ne perçoit absolument rien de cette société.
Alors puisque en fait, le siège social, il faut le préciser, est à Rufisque, la commune voisine de Barni.
En matière environnementale également, nous souhaitons que des techniques nouvelles d'extraction soient utilisées en abandonnant effectivement les explosifs. La réhabilitation des carrières, nous avons 400 et quelques hectares de carrières qui aujourd'hui ne sont absolument pas réhabilité. Et aussi une étude sur l'impact des explosifs qui sont utilisés sur le sol de Barni. Et enfin, sur le plan de l'accompagnement de la société par rapport au projet de développement que l'on porte, nous avons ici de grands projets d'aménagement qu'on a discuté d'ailleurs avec eux sur ces projet-là. Un appui nous a été promis, mais jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons absolument rien vu. Vous savez, les relations sont assez heurtées entre cette industrie et les populations de Barnier. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'apaiser ces relations-là. Ce que l'on souhaite, c'est une parfaite insertion environnementale, sociale de cette entreprise dans le tissu urbain. Je lance un appel au groupe Vicat pour qu'enfin ce problème soit résolu.
Ben écoutez, on verra si le groupe Vicat vous a entendu. On va revenir ici dans ce studio à Paris. Marie-Laure Guislain, est-ce que si la loi est adoptée mardi en France, monsieur le maire ou un habitant de Barny pourra porter plainte contre le groupe Vicat, maison mère donc de la Socosim?
Oui, si l'entreprise maison mère rentre dans les seuils effectivement de cette loi. En tout cas, ce que la loi pourrait changer à condition qu'elle rentre dans les seuils, c'est qu'elle donnera une base juridique pour pouvoir agir. Aujourd'hui, on voit bien, le droit mou ne suffit plus puisque cette entreprise a des politiques éthiques qui annoncent vraiment une responsabilité sur le terrain et malheureusement qui ne sont pas appliquées. Et on voit même qu'elle a des certifications, ça pose vraiment le problème aussi de la légitimité, la fiabilité de ces certifications, ISO 14001 mais aussi RSPO dans le domaine de l'huile de palme.
Bah, arrêtons-nous sur cette notion justement ISO 14001, en gros en quoi ça consiste, qui l'attribue et est-ce que c'est contraignant ? Sabine Gagné d'Amnesty International France.
Alors ces normes sont des normes privées qui sont attribuées par un organisme international privé. Donc ce sont un peu comme des labels, c'est-à-dire qu'il y a une certification de l'entreprise avec une identification comme quoi elle porte cette norme. Il y a quelques contrôles, mais en réalité, il n'y a pas de sanctions. On peut être proche de ce qu'on appelle le greenwashing. Monsieur le maire a beaucoup parlé de communication. Alors nous n'avons pas travaillé spécifiquement sur ce cas, mais c'est pour dire que ces normes peuvent en fait jeter un peu de poudre aux yeux. Et en réalité, comme il n'y a pas de sanctions, les entreprises ne sont pas tenues de les respecter.
Mais le greenwashing et ces entreprises qui tentent de redorer leur blason, on y reviendra dans la deuxième partie de cette émission. Très rapidement, vous vouliez rajouter un mot, Carole Péchaud.
Oui, je voulais rajouter un mot parce que c'est très intéressant le témoignage de ce maire. Et à mon sens, ça rentre vraiment dans tout ce qu'on va illustrer par les cas qu'on a traités, à savoir un questionnement de ce qu'on appelle le développement aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui le développement et quelles sont les causes structurelles du mal-développement aujourd'hui. Et donc on pourra revenir sur l'exploitation des ressources naturelles, le cas spécifique de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui qui attend quand même une croissance des investissements directs étrangers, etc. On pourra revenir également sur le rôle de la France là-dedans puisque notre diplomatie économique déroule un tapis rouge pour les entreprises en Afrique mais sans en contrepartie les encadrer, les réguler. Et je voulais également revenir sur ce qu'on appelle l'architecture de l'impunité, à savoir que, comme le disait le monsieur, ce qui est extrêmement complexe, c'est que on va voir qu'aujourd'hui, on ne peut malheureusement rien faire contre ce type d'exaction. Et c'est en ça qu'on est en train de travailler et qu'on espère que la loi, malgré ses écueils, apportera un bout de solution.
Monsieur le maire, le Sénégal a adopté une nouvelle constitution qui prévoit que chaque Sénégalais a droit à un environnement sain. Est-ce que ça peut faire bouger les choses, selon vous ?
Effectivement, le président de la République, son Excellence, M. Macky Sall, a proposé récemment au Sénégalais une constitution dans laquelle est clairement inscrit le droit à un environnement sain. Mais nous attendons aujourd'hui les lois organiques pour voir concrètement comment cette disposition sera traduite donc dans les faits réels. Si je dois prendre l'exemple français, où Jacques Chirac effectivement avait proposé une annexion d'une charte à la Constitution française, aujourd'hui nous surveillons de très très près. Est-ce que le juge judiciaire peut connaître de tels litiges, donc s'appuyant sur ce principe, où c'est uniquement les tribunaux administratifs qui pourront statuer? Nous en sommes à ce stade-là. Et en tout cas, beaucoup d'espoirs sont fondés sur ce texte. J'espère aussi que nous allons, dans le sillage aussi de l'exemple français, en arriver à une loi ici au Sénégal sur la responsabilité des multinationales qui viennent travailler chez nous. Vous savez, il y a beaucoup de matières premières en Afrique. On a des sociétés pétrolières, des sociétés de diamants, etc., etc. Et il faudrait aujourd'hui aussi, ici en Afrique, que l'on s'aligne, disons, sur ces normes-là pour faire en sorte que ces entreprises puissent venir travailler chez nous, parce que nous avons besoin aussi de cette ouverture.
On verra, monsieur le maire, si la loi française fait tache d'huile et si les États africains s'en inspirent dans les mois, voire les années à venir. Merci en tout cas infiniment à Abou Ahmed Seck. Je rappelle que vous êtes le maire de Barny, à 30 km de Dakar au Sénégal. Donc, Sabine Gagné, Marie-Laure Guislain, Carole Péchaud, vous restez avec nous. On se retrouve dans un petit peu plus de 3 minutes après le Flash Info. C'est pas du vent à suivre.
internationale.
Le chef de